Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité en partenariat avec le département de la Vienne. Réalisé par vos 5 radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora et REC.
Bonjour, votre rendez-vous départemental est de retour pour 2022. Toutes vos radios associatives vous souhaitent une excellente année. On se retrouve comme chaque semaine pour 15 minutes d'actualité locale. Au sommaire de cette émission, une rencontre avec Joëlle Pelletier, vice-présidente au département de la Vienne. Nous évoquerons avec elle les problématiques d'eau et de climat. Et puis direction Montmorillon pour un projet d'envergure pour 2022, la naissance d'une résidence habitagène. Interview à suivre dans quelques instants. On finira, comme à notre habitude, par l'agenda culturel. Vous êtes bien à l'écoute de Vivre en Vienne, merci d'être avec nous. Style FM a rencontré la vice-présidente du département en charge du climat et du développement durable. Cette dernière évoque les actions de la Vienne pour la préservation de la ressource en eau. Joëlle Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de la conférence sur l'eau qui s'est tenue il y a quelques jours sur Poitiers. Alors, une conférence concernant les impacts du changement climatique sur la ressource en eau. Il s'agit en fait ici de faire un premier bilan d'une charte qui a été mise en place il y a quelques années, c'est ça ?
Cette charte d'engagement a été élaborée en 2018 et donc est née vraiment de la volonté des acteurs de l'eau de se réunir pour travailler ensemble sur les enjeux liés à l'eau pour préserver ce bien commun.
Et cette charte, est-ce qu'elle est née d'un bilan alarmiste sur les ressources en eau ?
Bilan alarmiste, effectivement, on constate des effets du changement climatique sur cette ressource en eau, donc que ce soit en matière effectivement de qualité et de quantité. L'idée, c'est effectivement d'agir le plus en amont possible pour atténuer les effets du changement climatique de l'eau et puis peut-être aussi réfléchir sur de nouveaux usages ou adapter nos comportements pour pouvoir justement préserver et reconquérir la qualité de nos eaux.
Et quels sont les objectifs de cette charte ?
Alors, il y a cinq objectifs. Le premier consiste à reconquérir et préserver la qualité des eaux. Le second, assurer l'équilibre entre les besoins et les ressources naturelles. Le troisième, garantir en priorité la santé publique et pérenniser les usages. Le quatrième, préserver et restaurer les milieux aquatiques. Et enfin, mettre en place les conditions et les moyens de mise en œuvre nécessaires à l'atteinte des objectifs d'intérêt général.
Et alors justement, quelles sont les actions qui sont proposées aujourd'hui, qui sont existantes ou même les actions à venir ?
Le concept du schéma départemental va être organisé autour de 4 grands sujets. Donc dans un premier temps, la cellule d'animation du schéma départemental de l'eau travaille à la construction d'un observatoire de l'eau. Puisqu'effectivement, ce qui est important, c'est aussi de collecter toutes les données relatives à l'eau pour pouvoir orienter les actions et surtout en mesurer l'efficacité de façon à pouvoir soit poursuivre ou corriger en fait notre feuille de route. On sait aussi que, comme toutes les problématiques autour de l'environnement, c'est aussi un des facteurs clés de réussite consiste à changer les comportements. Et pour cela, ça passe forcément par une sensibilisation et une compréhension des enjeux. Et donc, le schéma départemental de l'eau propose des ateliers d'échange sur les différents thèmes, ateliers d'échange qui sont ouverts aux élus et aux services des différents acteurs de l'eau. Et puis, nous avons également des actions pédagogiques donc, qui sont copilotées entre l'État et le département en partenariat avec l'Association des maires. Le dernier point, c'est d'être en veille sur les sujets d'actualité de façon à adapter éventuellement les actions que nous aurions pu mettre en place et puis sensibiliser également sur les nouveaux enjeux qui pourraient apparaître.
Le bilan, justement, après presque 2 ans de mise en place du programme, il est plutôt positif ?
Alors, il est positif puisque nous avons maintenu cette mobilisation forte autour des enjeux de l'eau. En 2021, nous avons réalisé par exemple le panorama des acteurs de l'eau en Vienne et ce sont près de 50 structures qui ont fait des retours que nous avons intégrés dans ce document-là. Donc, on voit quand même que la mobilisation, qui est un des premiers aussi leviers pour pouvoir changer les choses, reste reste d'actualité.
Alors justement, à notre échelle, nous en tant que particuliers, de quoi est-ce qu'on doit avoir conscience pour pouvoir adapter notre comportement concernant la consommation d'eau ?
Nous pouvons être tous acteurs, hein, puisque la consommation d'eau est un bien commun. Bon, après, effectivement, on voit bien que tout est très très lié. On parle de changement climatique, par exemple. Je vais prendre juste l'exemple de. On a mesuré que dès lors que les températures augmentent de 1%, l'effet sur la consommation de l'eau augmente de 1,6%. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a un lien très fort entre le changement climatique et la consommation d'eau, et que finalement, je dirais qu'il n'y a pas de petit effort, il faut vraiment réussir à mobiliser les différents acteurs, même si on sait très bien que la répartition des consommations d'eau ne sont pas équitables en fonction des usages. Réfléchir à nos usages et aussi à nos modes de consommation.
Il y a aussi des régions, j'imagine, qui sont plus alors, tranquilles, entre guillemets, que d'autres concernant les ressources en eau, mais est-ce qu'on doit vraiment être inquiet aujourd'hui, nous par exemple, dans la Vienne, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter ?
Oui, puisque nous l'avons bien vu au niveau des travaux qui ont été faits sur le Sage-Clin. Hein, on a un certain nombre de masses d'eau qui ont un niveau de qualité à améliorer. Donc c'est vraiment une problématique et c'est aussi ce qui nous a permis de mobiliser autour de ces enjeux liés à l'eau. Je pense que plus aucune région malheureusement n'est épargnée. Hein, on le voit bien dans les événements climatiques. Ils sont de plus en plus fréquents, que ce soit des périodes de sécheresse ou inversement des périodes d'inondation. Donc malheureusement, plus aucune des régions n'est épargnée.
Alors quelle est la prochaine étape concernant le suivi de cette charte signée en 2018 dont on parlait tout à l'heure ?
Alors la prochaine étape, je dirais que c'est un fonctionnement qui est assez rodé, bien, puisque nous avons des ateliers d'échange, des comités techniques et des comités directeurs. L'idée, c'est de poursuivre sur les travaux. Donc, nous avons plusieurs travaux en cours. Nous arrivons, en fait, dans les phases finales hein, de l'observatoire de l'eau. Donc, quand on aura vraiment collecté toutes les données, l'idée, c'est de pouvoir les partager avec les programmes. Parce que c'est vrai que je vous ai pas parlé des programmes aussi d'action locaux qui sont portés par d'autres acteurs de l'eau. Tels que les syndicats d'eau potable, par exemple. Hein. Mmh. Donc, si vous voulez, le schéma départemental, il est plutôt là pour fédérer et recueillir les éléments. Donc là, cet observatoire de l'eau, il va être quand même assez structurant et va pouvoir nous permettre de valider si nous allons dans le bon sens. Et puis évidemment, nous allons poursuivre nos ateliers d'échange. Donc, je vous ai effectivement parlé, par exemple, des sujets autour de l'assainissement. Donc, l'idée, c'est de poursuivre ces actions pour pouvoir maintenant les déployer de manière concrète.
Un immense merci, Joëlle Pelletier. Un immense merci également au département et à tous ces acteurs d'avoir cette volonté de mettre en place des actions pour préserver cette ressource précieuse dans l'avenir.
Nous encourageons aussi le grand public à nous rejoindre dans ces réflexions.
Les résidences Habitat Jeunes sont des habitats sociaux permettant de favoriser l'insertion des jeunes. Une telle résidence doit être inaugurée cet été à Montmorillon. Vincent Ribaud est allé à la rencontre de Patricia Ravaillot, coordinatrice du pôle logement.
Bonjour à toutes et à tous. À Montmorillon, le pôle logement de la MJC Clos de Nougaro proposera dès l'été 2022 une nouvelle résidence pour les jeunes dans l'objectif de favoriser leur accès à l'emploi. Au micro d'Agora, nous accueillons Patricia Ravaillot, coordinatrice du pôle logement de la MJC Clos de Nougaro de Montmorillon. Bonjour.
Bonjour Vincent.
À qui s'adressera cette nouvelle résidence à Montmorillon ?
Tout simplement, elle s'adressera à des jeunes âgés de 16 à 30 ans. Tous les jeunes qui viennent sur le territoire se poser pour un emploi, pour une formation ou autre, ont la possibilité d'intégrer cette résidence.
Quelles seront les particularités de cette nouvelle résidence ?
Alors, le premier avantage de cette résidence Habitat Jeune, c'est qu'elle est située en centre-ville de Montmorillon, à côté d'un lycée, ce qui permet que les jeunes soient vraiment au centre de la vie de la cité. Ça permet aussi à ce que le territoire ait une population de jeunes qui puissent consommer, qui puissent faire partie de la vie sociale locale du territoire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce public-là va être vraiment acteur de la vie du territoire.
Comment a-t-elle été pensée, cette résidence ?
Alors, ça a été assez difficile hein, au départ, parce qu'on était sur un bâtiment avec 9 logements conçus d'une certaine façon. On est passé de 9 logements existants sur ce bâtiment à 16 logements, donc ça demande quand même une certaine interprétation. On a voulu que l'entrée de la résidence soit favorisée par le collectif, c'est-à-dire qu'en rez-de-chaussée, on aura tout ce qui est vie collective de la résidence Habitat Jeune, des grands espaces, cuisine collective, vie collective, et on a aussi pensé l'accès aux personnes à mobilité réduite. C'est un vieux bâtiment avec un énorme escalier, des poutres apparentes en hauteur sur le dernier étage. Et on voulait en même temps faire du neuf, mais garder ce cachet de l'ancien pour les jeunes.
Avec, je suppose, des loyers très modérés.
Oui, oui, tout à fait. L'idée de la résidence Habitat Jeune, hein, c'est des logements individuels favorisant l'autonomie des jeunes. Les redevances qui sont dues par les jeunes, parce qu'on ne parle pas de loyer, on parle de redevances, parce que ça inclut le loyer, les charges et toutes les prestations, hein, l'animation, l'accompagnement social des résidents. Une APL qui est versée dès le premier mois et qui est majorée parce qu'on est sur une convention FJT, et des conditions d'entrée et de sortie assez souples de la résidence. On peut entrer en résidence en une semaine s'il y a de la place, et on peut en sortir en une semaine.
Pour terminer, avez-vous un contact pour les jeunes intéressés par ces nouveaux logements à Montmorillon ?
Oui, tout à fait. Ils peuvent appeler le pôle logement de la MJC de Montmorillon au 05 49 83 82 43 ou faire une demande sur l'adresse mail suivante logement@mjcmontmorillon.fr.
Eh bien, merci à vous, Patricia Ravaillot. Je rappelle que vous êtes conseillère au pôle logement de la MJC Claude Nougaro de Montmorillon. Merci beaucoup.
Et on termine, comme chaque semaine, par vos idées sorties.
Depuis le 4 et jusqu'au 30 janvier, venez voir l'exposition des photographies lauréates du concours 2021 du Centre d'études biologiques de Chizé à l'espace Mendès France. En 2019, dans le cadre des célébrations des 50 ans du CEBC et des 80 ans du CNRS, un concours photo avait été lancé dont l'objectif était de valoriser par la photographie le travail de ses équipes. Suite au succès de cette première édition, un deuxième concours a été organisé en 2021 avec plusieurs catégories dont deux ouvertes au grand public. Les photos des lauréats de chaque catégorie vous sont proposées dans cette exposition. En ce moment et jusqu'au 23 janvier au Dortoir des Moines à Saint-Benoît, vous êtes proposé une exposition de Christina Foitou intitulée Fragments itinérants. Cette exposition est un récit qui raconte et suit l'existence humaine dans tous ses états, forts ou faibles. Toutes les œuvres de moyenne et grande dimension sont des techniques mixtes sur toile créées de 2016 à 2021. Pendant la période de l'exposition, l'artiste peintre sera présente au Dortoir des Moines tous les après-midi, week-end compris. L'entrée est gratuite sur présentation du pass sanitaire. Jusqu'au 28 janvier, venez voir également l'exposition de Sylvie Dissa, Les merveilles de la nature à la maison de la Gibauderie. Artiste touche à tout, elle nous ouvre son carnet autour des tableaux mêlés de peintres et de collages.
Vivre en Vienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles infos locales. Passez une très bonne semaine à l'écoute de vos radios associatives.
C'était Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité réalisé par vos 5 radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora, REC et en partenariat avec le département de la Vienne.